Bonjour à tous, bienvenue dans Fire Escape. Aujourd'hui, je discute avec Leslie Anderson. Elle est américaine originaire du Kentucky, mais a toujours eu une passion pour la France et le français. Comme on le fait souvent dans ce podcast, on va parler de différences culturelles, mais cette fois d'un point de vue américain. On parlera aussi des liens très étroits entre la France et le Kentucky ou la Louisiane, deux états qu'elle connaît très bien et qu'elle va nous faire visiter dans ce podcast. Aujourd'hui, on va donc dans l'état du Bourbon, du poulet frit ou du Bluegrass, direction Louisville, Kentucky. C'est parti. Bonjour Leslie, bienvenue dans le podcast.
Bonjour.
Est-ce que tu peux commencer par te présenter ?
Oui, je m'appelle Leslie, je suis américaine, j'habite aux États-Unis, dans l'état de Kentucky, et je devrais dire quoi d'autre ? Je travaille dans le Kentucky, dans un musée d'histoire.
Un musée sur l'histoire du Kentucky, du coup ?
Oui, c'est ça.
Ok.
Oui.
Déjà, tu parles très bien français. D'où est-ce que ça vient, cet intérêt pour la France et pour la langue française?
Je pense que c'est depuis mon enfance, bien sûr. J'ai grandi avec une série qui s'appelle Madeleine. C'est une série animée sur la télé et c'est l'histoire d'une petite orpheline qui habite à Paris, et j'adorais cette fille, et j'étais curieuse envers la France, et donc j'avais toujours, j'ai grandi avec les phrases comme « merci, bonjour », et donc pour moi ça a continué pendant toute ma formation. J'ai commencé à étudier le français quand j'étais au lycée. Et puis après, à l'université, j'ai fait ma licence en français.
Ok. Et c'était un intérêt plus pour la langue française ou la culture française, ou les deux ?
Les deux. J'adore l'histoire, la culture, la mode française surtout.
Ok.
Et l'art, oui, donc histoire, culture et langue.
Ok. Et donc au lycée, est-ce que tu... Parce que je ne sais pas forcément comment ça se passe le lycée américain, je pense que beaucoup de gens l'ignorent aussi. Est-ce que tu as la possibilité de choisir les sujets que tu veux ?
Oui, on peut choisir certaines choses comme une langue. Il est obligatoire d'étudier une langue et donc j'ai choisi le français. Il y a d'autres qui vont choisir l'espagnol. Ou quoi d'autre, italien, c'est plutôt rare, allemand, c'est aussi un peu rare au lycée, mais espagnol, français, c'est assez normal d'en étudier un de ces langues. Et puis pour les autres sujets, on peut choisir les sciences, technologies. Mais il y a d'autres cours qui sont obligatoires.
D'accord. Et une autre question que je me posais à ce sujet, est-ce que vous étudiez plutôt un français canadien ou un français vraiment de France ?
Je pense que c'est plutôt de France.
Ok.
Pour moi, c'est, peut-être ça dépend, mais pour moi, on a appris beaucoup plus sur la France.
Okay.
Et j'ignorais le Québécois.
Okay.
Ça, c'était plutôt à l'université. On a commencé à apprendre l'idée de la francophonie et le fait que le français, c'est une langue qui est parlée autour du monde et non pas seulement en France.
Ok, je vois. Et donc après ça, tu as étudié le français à l'université. Tu m'as dit que c'est de l'université de Nouvelle-Orléans, c'est ça ?
Oui, c'est TuneIn. C'est pas exactement une université Ivy League. Je ne sais pas si vos lecteurs ou vos auditeurs, plutôt, connaissent le mot Ivy League, mais c'est un peu comme une grande école, je pense. Et l'école s'appelle Tulane, c'est dans la Nouvelle-Orléans.
Ok. Et Donc, pour ceux qui connaissent pas, j'explique un petit peu. Les deux premières années, en général, vous êtes assez libre de choisir ce que vous voulez faire. Et ensuite, vous choisissez un major pour se spécialiser. Et donc, toi, tu as fait du français, c'est ça?
Oui, et aussi anthropologie. J'ai commencé à étudier anthropologie et puis, vite, j'ai décidé, mais il me faut français aussi. Okay. Donc, j'ai étudié les deux.
Et à ce moment-là, ton but, c'était quoi? C'était de devenir professeur de français?
Ah, oh là là, c'est le problème avec les universités aux États-Unis. C'est très facile de commencer les études sans avoir un objectif
Je vois.
Précis. J'adorais l'expérience et je pense que oui, c'est un problème avec le système éducatif aux États-Unis. Mais j'apprécie énormément le fait que j'ai étudié des sujets comme anthropologie, philosophie. Mais carrière, on ne pense pas suffisamment à ce qu'on va faire après.
Dans ce genre de cours, qu'est-ce que vous étudiez? Est-ce que vous étudiez la langue et vous étudiez aussi la culture, la francophonie, etc. Est-ce que tu as des exemples de choses que tu as envie de partager, surtout à des auditeurs français, qui peuvent être intéressants?
Comme certains cours que j'ai pris, j'ai pris un cours sur l'histoire. J'ai pris beaucoup de cours sur l'histoire médiévale de la France. J'avais un prof qui se spécialisait au Moyen-Âge. Donc, ça, en premier. Okay. Aussi, la littérature maghrébine.
OK.
Un petit peu. Donc, j'ai pris un cours qui s'appelait quelque chose comme... les écrivaines maghrébines et on lisait les livres écrits par des femmes algériennes maghrébines et quoi d'autre. J'ai pris un cours sur le français dans la Nouvelle-Orléans. Ça parlait plutôt de la colonisation de la Nouvelle-Orléans par les Français, la langue créole et la langue Cajun. Ça c'était très intéressant.
Et ça, c'est intéressant parce que la Nouvelle-Orléans, il y a forcément beaucoup d'aspects de la France là-bas. Est-ce que c'est des choses que tu as remarquées et comment tu pourrais expliquer un peu cette culture française en Nouvelle-Orléans?
Peut-être je commence avec la cuisine. Évidemment, la cuisine aujourd'hui, ce n'est pas la cuisine française qu'on associe avec la France. Une cuisine traditionnelle, mais il y a une appréciation pour la cuisine qui est vraiment fondamentale pour la culture. Et je pense que c'est quelque chose qui est facile à observer. Je peux dire qu'il y a des fleurs de lys partout dans la ville qui est peut-être l'héritage de cette colonisation et cette histoire avec la France. Il y a les boulevards qui sont d'origine français. Et Mardi Gras, comme une bonne américaine, je dis Mardi Gras. et il y a aussi des phrases qui existent dans la Louisiane qui n'existent pas dans d'autres parties des États-Unis, comme par exemple, on dit beaucoup, mais dans une phrase en anglais, on peut dire beaucoup, comme par exemple, I make beaucoup bucks, je gagne beaucoup d'argent.
Okay.
Et, Ouais, et il y a beaucoup d'autres choses aussi.
Ok, mais ça c'est super intéressant. Tu parlais de la cuisine.
Ouais,
Est-ce que tu as des
ouais,
exemples de cuisine de Nouvelle-Orléans qui te plaît particulièrement ou que tu aimerais partager?
oh, j'aime toujours la nourriture qui est unique, spécifique, comme crawfish. C'est un repas Cajun et en bouillie, des
Ok.
crawfish, des... C'est quoi? C'est des crevisses?
Des écrevisses?
Écrevisses, oui, ok, c'est
Ok.
ça. avec beaucoup d'épices et poivrons. Et on
Ok.
mange en communauté, en groupe. C'est une grande fête. Donc, un peu comme un pique-nique, mais il y a beaucoup de nourriture, il y a des pommes de terre, il y a de l'alcool, de la bière, du vin. Et oui, c'est une fête. Et
C'est
quoi
pour une
d'autre?
occasion spéciale ou c'est juste une fête comme ça?
C'est juste une fête, mais surtout pendant l'été, on voit très souvent. Les voisins vont avoir un crawfish boil. On appelle cet événement un crawfish boil et on ouvre les portes et on invite tout le monde pour venir et manger ensemble.
Ok. C'est
On a
super
ça.
intéressant.
Ouais, on a des sandwichs qui s'appellent des po'boys. Po'boy comme pauvre, un garçon pauvre. Et un po'boy, c'est une grosse baguette, vraiment énorme, pas comme normal, avec de la viande, peut-être de l'alligator. On peut manger ça,
Ah ouais, ok.
ouais, sur un po'boy. Et il y a plein d'autres choses comme un sandwich, peut-être des tomates. Peut-être de la mayonnaise et on mange ça. Ce n'est pas la nourriture saine, c'est sûr.
Non, mais c'est original en tout cas.
Oui, c'est original et c'est obligatoire. Quand on visite la ville, il faut chercher la nourriture Cajun et Creole. Les deux sont très différentes. Les styles sont très différents. Et puis, il faut trouver des po'boys. Ouais, et c'est pour avoir cette expérience de native, un peu.
T'as passé combien de temps au total en Nouvelle-Orléans?
4 ans.
Ok, donc pendant toutes les études.
Oui.
Est-ce que tu as des petites recommandations, soit en Nouvelle-Orléans ou soit en Louisiane en général, de lieux à visiter ou de lieux qui te plaisent particulièrement?
Oui, ce que je conseille, il y a beaucoup de monde qui vont visiter le Bayou et qui vont faire un tour sur un bateau avec un guide. Je conseille plutôt de faire un voyage dans un kayak. Évite la foule. Il y a des, on peut acheter des billets pour aller dans un groupe sur un bateau et on peut voir des alligators. Et c'est commercial, ce n'est pas vraiment authentique.
Je vois.
Et personnellement, j'ai jamais fait. Mais plusieurs fois, j'ai loué un kayak et je suis allée sur le bayou avec quelques amis et c'est magnifique. Surtout pendant que le soleil couche, c'est vraiment beau. Donc je pense que il faut pas rater cette expérience.
Et t'as pas peur de voir les alligators pendant que tu fais du kayak?
Non, ça, ils sont petits. Je
Ok.
ne nage pas.
Oui.
Je reste dans mon kayak, mais non, non, c'est, je pense que il n'y a pas de danger quand
Ok.
tu fais ça. Et autre chose, c'est les jardins et les parcs dans la ville, la Nouvelle-Orléans. Il faut vraiment voir Audubon Park. C'est le parc le plus historique de la ville.
D'accord.
Et c'est dans une région de la ville avec, c'est sur St. Charles Avenue. St. Charles Avenue, c'est le boulevard, c'est peut-être le plus connu. Et on a le, comment on dit ça, le train qui passe au milieu de la rue. Et les arbres sont énormes. Et aussi, j'aime beaucoup City Park. C'est dans l'autre direction de la ville. C'est assez nouveau, mais c'est aussi très beau. Et souvent à City Park, il y a des concerts, des choses à faire, des restos. Et il y a un musée qui s'appelle NOMA, New Orleans Museum of Art. Voilà, New Orleans
OK.
Museum of Art. Donc, il faut aller voir ça aussi.
OK, trop bien. je prends note parce que j'ai jamais été là-bas, donc ça va me servir à moi
Oui,
aussi.
ouais, ben, tu vois, adorer la ville, c'est vraiment, il y a ben, la musique, la nourriture, plein de choses à faire. C'est une ville qui est animée, qui est vraiment vivante, avec une âme.
On imagine souvent
J'aime
le jazz dans
beaucoup.
les rues, les choses comme ça. C'est vrai tout ça?
Oui, ok. Donc, on a les légendes de Bourbon Street et on a The French Quarter, le quartier français, qui est aussi une partie de la ville très historique. Et c'est cette partie de la ville qui ressemble beaucoup, peut-être, le sud de la France, ou aussi il y a une influence espagnole dans cette partie de la ville. Mais French Quarter, le quartier français, c'est là où il y a tous les bars. Et oui, aussi les musiciens dans les rues. Ouais, et c'est vraiment une fête. Moi, c'est un peu trop touriste, peut-être. Mais il faut avoir cette expérience juste pour être capable de dire que tu as fait ça. J'étais là, j'ai fait ça, cool.
Je vois. Je vois. Eh bien, puisque tu parles de la France, ça me fait une bonne transition. Toi, c'est quand la première fois que tu as visité la France?
Ah, la première fois. Ouf, ça fait plusieurs années. J'étais très jeune. Je pense que j'avais 19 ans. Et c'était après mon expérience en France que j'ai dit, ah, ok, j'ai étudié anthropologie, mais peut-être je vais continuer plutôt vers le français, parce que j'aime beaucoup la France. Et donc j'ai étudié pendant un été à Paris. Et bah, c'est Paris, c'était la première fois pour moi que j'avais accès à beaucoup de musées et cultures, qui est juste, c'était la grande ville. Pour moi, c'était la première très grande ville que j'ai visitée. Et aussi, une chose que les États-Unis, il y a de l'histoire, mais c'est impossible à comparer l'histoire de mon pays avec l'histoire de la France et
Bien
d'autres
sûr.
pays en Europe. C'est une histoire qui est beaucoup plus longue. Et juste, j'avais beaucoup de copines et des amies européennes et j'étais intéressée par des choses comme les cathédrales ou les bâtiments. Et pour eux, c'est normal. Mais pour moi, c'était incroyable.
Est-ce que tu as des exemples de monuments qui vraiment t'ont impressionné?
Ah ouais. Chose que j'aime le plus à Paris, c'est peut-être, c'est drôle, ne te moque pas de moi. C'est
Non,
le
bah
musée Cluny à Paris.
OK. Non, mais c'est super. Ça fait partie de l'histoire de la ville, c'est hyper intéressant.
Ouais. Et comme je t'ai dit, quand j'ai étudié le Moyen Âge, j'ai vraiment adoré cette histoire médiévale et la littérature, la culture. Et aller dans un musée et être dans une ville qui a une histoire qui date du Moyen Âge et bien plus loin de ça, un peu incroyable. Je pense, ah, mais qui a vécu dans cet espace et comment était leur vie? Et Sainte-Chapelle aussi, j'adore Sainte-Chapelle.
La Sainte-Chapelle, c'est ça?
Oui. Ouais, et c'est quoi d'autre à Paris que j'aime beaucoup? Il y a le musée Cluny et les jardins. Luxembourg, le jardin Tuileries. C'est juste, j'aime aller regarder les gens qui va et viennent. Et oui, c'est intéressant.
Et qu'est-ce que tu faisais à Paris? Tu étudiais pendant l'été ou tu étais juste là pour
Oui,
visiter?
j'ai étudié pendant l'été et j'avais des profs américains qui donnaient les cours.
D'accord.
Donc, ce n'était pas que quelques années après ça que j'ai étudié à l'école normale supérieure. Et donc, j'avais des profs français. Des
OK.
professeurs français.
C'est quoi les choses qui t'ont surpris en étudiant en France par rapport aux universités américaines?
Oh, les universités américaines, les cours sont, il faut être actif dans les cours, et je pense qu'en France, on va plutôt écouter le prof qui donne un cours. Mais aux États-Unis, ce n'est pas le cas. C'est quelquefois, oui, c'est le cas. Mais d'autres fois, on arrive pour le cours et il y a un tas de choses à faire pendant le cours, comme des activités. Il faut travailler avec des partenaires en groupe. Il faut répondre aux questions du prof, et ce n'est pas une bah on ne on fait on est très actif et mais en France on arrive, on s'installe et on écoute, on prend des notes, et puis c'est parti.
Ouais, je vois. Et dans l'école en elle-même, est-ce que, parce que aux États-Unis, par exemple, il y a le sport est très important, les activités
Ouais.
autour des cours sont très importantes. Là où en France, on se concentre vraiment sur le côté académique. Comment tu définirais ces différences ou qu'est-ce que tu as remarqué?
Je pense que aux États-Unis, on a trop d'autres choses.
Ok, je vois.
Donc, il y a des clubs, il y a des fraternities, des sororités. Il y a du sport et maintenant aussi, je pense que tu habites à New York, donc tu
Maintenant,
connais,
ouais.
on est en pleine March Madness,
Ah oui, c'est vrai, ouais.
qui est un tournoi de basket pour les universités. Et l'idée, à mon avis, l'idée d'être un athlète et étudier, ce n'est pas possible. À ce niveau-là, ce ne sont pas des étudiants universitaires, ce sont des athlètes qui font semblant d'étudier.
Ok, je vois.
Ouais, donc en France, c'est différent, mais il y a des clubs dans l'université en France, il y a des clubs, il y a des activités et il est possible de trouver des choses à faire, des activités à faire. Moi, j'ai commencé à faire l'escalade en France quand j'étudiais à l'école normale supérieure parce que j'ai trouvé un club. Mais c'est vrai que les études sont plus importantes et tout le reste, c'est secondaire ou beaucoup moins visible, important dans ma vie.
Je vois. Qu'est-ce que tu aimais faire en dehors des cours à Paris?
J'aimais me promener.
Ah.
Aller voir les musées et puis aussi voyager parce que quand j'étais là, il fallait profiter du fait que j'étais juste à côté des autres pays, des autres villes et que le voyage c'est très facile.
Tu as pu prendre le
Donc,
TGV?
ouais.
Trop bien.
Ouais. Donc, moi, j'ai voyagé beaucoup.
Dans quel endroit? En France ou dans toute l'Europe?
Les deux, en
Ok.
France et aussi en Europe. Donc, je suis allée en Suisse, en Belgique, en Suède, aux Pays-Bas, en Angleterre, en Italie, en Allemagne, et je pense que c'est tout. Pas
Tu
en
connais mieux l'Europe
Espagne.
que moi, je pense.
Non, pas possible.
Et en France, c'est quoi les villes qui t'ont marqué?
Lyon.
Ok.
Oui, j'aimais Lyon. En fait, Lyon m'a fait penser plutôt à Louisville. C'est la ville où j'habite maintenant et j'ai grandi à Louisville. C'est la plus grande ville dans le Kentucky. C'est cosmopolite, mais ce n'est pas comme New York, Chicago ou Paris, Londres. C'est une ville où on peut habiter très facilement et on oublie peut-être qu'on est dans une grande ville. Donc, Lyon me semblait très familier.
Je vois. Il y a quelque chose qui m'intéresse aussi, c'est tout ce qui est différence culturelle. Que ce soit la première fois quand tu as visité Paris ou quand tu as étudié là-bas, c'est quoi les choses qui t'ont marqué dans le comportement des Français ou leur manière d'interagir avec toi ou les différences culturelles en général?
Oh, mais je pense que c'est facile à m'habituer parce que je suis quelqu'un qui est curieuse et ouverte et donc j'apprécie les différences et j'apprécie les cultures. Donc pour moi, ça me gêne pas le fait que les Français ne sourient pas dans le
OK.
haut. Et tu habites aux États-Unis, donc tu connais que aux États-Unis, on sourit constamment. C'est fatigant. Il faut toujours sourire. Et donc pour moi, c'est un peu cool qu'en France, je peux juste marcher. Je dois pas sourire. mais quelque chose qui est aussi, c'est une question de politesse parce que aux États-Unis, on sourit toujours pour être poli. Et en France, quelque chose qu'on fait pour être poli, c'est dire bonjour et bonne journée dans les boutiques. Et ça, je pense que c'est difficile pour les Américains. On entre dans une boutique, on ne dit pas bonjour, hello, quand on entre. Mais en France, c'est obligatoire, c'est poli de faire ça. Et aussi, dans le matin, des fois, c'est difficile pour moi de dire bonjour à tout le monde le matin, mais quand tu entres dans un café ou, je ne sais pas, une boulangerie, même si on est fatigué et dans une mauvaise humeur, il faut quand même dire bonjour. Oui.
Et s'il y a des aspects de la culture française avec laquelle tu as eu du mal de t'adapter? C'était facile pour toi?
Ouais, je pense que c'est assez facile. Bah, je fais plein de gaffes, je fais plein d'erreurs et il y a toujours des opportunités d'apprendre. Surtout quand je parle pas super, super bien la langue. Mais il y a des choses que j'apprécie le plus. C'est s'asseoir pour manger et dire bon app à tout le monde. Pour moi, aux États-Unis, quand je m'asseoir pour manger, je dois me rappeler, on ne dit pas bon appétit. Et ça, cette phrase n'existe pas en anglais. C'est impossible à traduire, peut-être enjoy your food, mais c'est un peu bizarre.
Ouais.
Mais j'adore dire bon app. c'est vraiment cool. J'ai travaillé un peu quand j'étais en France et il y a beaucoup plus de respect pour les vendeurs, vendeuses ou les employés qu'aux États-Unis.
OK.
Et il y a beaucoup plus de respect pour les pauses déjeuner, les pauses clopes, quoi que ce soit. Et même les clients respectent. Oh, mais c'est l'heure de manger. Allez, allez manger. Pas de problème.
T'as l'impression que c'était plus cool de travailler en France qu'aux États-Unis?
Ouais, je pense que aux États-Unis, c'est comme une machine. Il faut être une machine. Et même maintenant, je mange à mon bureau. J'ai pas vraiment de pause pour manger. Je mange et je travaille.
Ok.
Et c'est bizarre, n'est-ce pas?
Je vois. Ça peut se faire en France dans certaines entreprises, mais c'est vrai qu'en général,
ouais.
on est quand même beaucoup plus cool avec ça.
Oui. Ouais, donc je ne sais pas si... Certainement, il y a des choses qui sont un peu difficiles à faire, mais maintenant, j'ignore, je ne peux pas trouver un exemple.
La bise, par exemple, c'était facile pour toi de t'adapter à ce genre de choses?
Oui, je pense que c'est drôle.
Ouais.
Je pense que c'est drôle. Je n'aime pas les câlins. Je pense aux États-Unis, on dit que oh, les câlins, on fait les câlins tout le temps. Mais moi, j'aime pas trop. Mais je pense que les bises sont assez intimes de permettre quelqu'un de entrer dans votre espace personnel. C'est intime, mais c'est aussi amusant de faire. Et je dis à mes amis aux États-Unis que des situations drôles comme lorsque tu arrives à une fête et il y a 10 personnes qui sont là, il faut aller et faire le bise avec chaque personne. Et c'est drôle, mais c'est ce qu'on fait.
Tu trouvais que c'était facile de te faire des amis en France?
Non.
Non.
Non. C'est. Et j'avais quelques amis, mais pour moi, je pense que c'était plus facile de trouver des amis avec d'autres étrangers.
Ok.
Donc j'ai trouvé des amis anglais, espagnol, italien. Et quelques Français, mais okay. Pas énormément. Mais je pense qu'aux États-Unis, on va vite avoir beaucoup d'amis. Peut-être pas un vrai ami, mais beaucoup de personnes avec lesquelles on sort, on fricante, on fait des choses. Qu'est-ce que tu penses? C'est
non,
facile
je,
aux
je,
États-Unis?
Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord, okay. Et c'est quelque chose que les gens disent beaucoup en général, c'est que en France c'est très difficile de se faire des amis, mais après, on devient très proche. Alors qu'aux États-Unis, on peut se faire plein d'amis et en fait, on se rend compte que on n'est pas très important pour eux. Et pour nous, c'est un peu difficile des fois parce qu'on va rencontrer des gens et on se dit, oh, ça y est, j'ai un ami et tout. Et après, on se rend compte que la personne ne nous connaît plus et c'est très bizarre aussi. Donc, c'est totalement l'inverse.
Oui. Oui, parce qu'aux États-Unis, on dit amis, mais il n'y a pas vraiment une sincère relation avec la personne. On dit amis très facilement. Et il faut peut-être avoir une phrase pour dire presque amis.
Ouais.
On est presque amis, un peu
ouais,
amis.
Je ne sais pas ce que tu veux dire.
Mais il y a un manque de sincérité avec beaucoup de personnes que je connais aux États-Unis. Et c'est peut-être ça la différence. C'est facile de trouver des amis, mais les relations sont plus sincères, sont moins réelles.
Je vois. Ça me fait penser tout ce que tu racontes. Est-ce que tu as vu Emily in Paris?
Oui.
Qu'est-ce que tu en as pensé?
Ah, ok. Je pense que les Français détestent Emily in Paris.
C'est très, très controversé, on va dire.
Oui. Et ce que je vais dire, c'est que, évidemment, Emily et aussi les autres personnages, les personnages français, sont des extrêmes. Et sont assez ridicules. Et surtout Emily, elle est ostentatoire. Mais elle est dans des situations que généralement sont assez familiers pour moi. Elle est un peu plus, j'hésite à dire bête, elle est un peu plus naïf peut-être. Mais en général, il y a des choses qui sont choquantes pour Emily, qui sont peut-être choquantes pour n'importe quelle Américaine en France.
Est-ce que tu as des exemples de trucs que tu as vus dans la série qui t'ont rappelé ton expérience à toi?
Peut-être l'idée d'un 5 à 7 est très bizarre pour... écoute, les Américaines sont prudes, plutôt. Et donc, c'est un peu choquant d'avoir des affaires, on va dire en anglais, on va dire aux États-Unis, on va dire « Oh, ce sont des affaires, des liaisons illicites. » Mais je pense qu'en France, on est « Ok, on se calme, c'est normal, c'est pas grave. »
Surtout à Paris où la culture est un petit peu différente.
Et je pense aussi, on parle des personnes qui sont plutôt aisées, de la classe aisée. Et, donc, ce n'est pas cette idée des affaires, des liaisons, ne parle pas de toutes les Français, de chaque Français qui existe et qui est là.
Bien sûr.
Ouais, il y a ça. Emily, elle doit apprendre le français ou elle décide d'apprendre le français. Et je pense, j'ai entendu des Américains il y a un stéréotype que oh, les Parisiens sont rudes, ils ne parlent pas anglais. Je ne pense pas que c'est le cas. Je pense que les Parisiens sont des gens qui habitent dans une grande ville, qui sont peut-être un peu fatigués avec les touristes. Je comprends ça facilement. Mais moi, j'ai jamais eu des problèmes avec l'anglais. Et je trouve que souvent, les Français sont heureux de parler en anglais. Et ils parlent très bien l'anglais. C'est impressionnant. Vraiment, c'est impressionnant. Et ouais, je pense que c'est poli d'apprendre quelques phrases et de faire ton mieux dans la langue, mais si il y a un moment où tu ne peux plus continuer en français et il te faut l'anglais, je pense que c'est pas grave. On est assez sympa
Ouais.
et oui.
Non, c'est vrai. En général, c'est plus l'intention. Je pense que les gens, surtout à Paris, ils aiment pas quand les gens, ils arrivent, ils parlent anglais directement, en s'attendant à ce que la personne réponde en français. Mais à partir du moment où la personne essaie, je pense que les gens vont juste répondre en anglais et ils vont pas se poser de, ça va pas poser de problème.
Ouais. Et c'est pareil en anglais aux États-Unis. J'entends très souvent parler anglais, pourquoi est-ce qu'ils ne parlent pas anglais? Et donc, il faut pas être hypocrite.
Ouais.
je fais mon mieux. Il faut qu'on fait son mieux et voilà.
Bien sûr. Et donc, toi, tu as appris, enseigné, pardon, le français après ça. Non, tu as enseigné l'anglais, pardon, en France et après, tu as enseigné le français aux États-Unis.
Oui.
Comment t'as ressenti ça d'enseigner l'anglais à des enfants en France?
Oh là là, j'ai fait des drôles d'erreurs. Je peux te dire, je peux partager une histoire avec toi.
Oui, vas-y.
Ok, imagine, je suis dans une école primaire et qu'est-ce que je voulais dire? Je pense, ah oui, ok. On faisait une activité en classe et je voulais dire en français parce que vraiment l'anglais était un peu comme les jours de la semaine, hello, how are you, très très simple. Donc, je voulais dire prenez un feutre et colorez, je ne sais pas. Mais j'ai dit foutre. Et la maîtresse m'a corrigée parce que les jeunes, les petites étaient un peu choquées. Et elle m'a expliqué que ma prononciation, j'ai fait une erreur. Et donc, c'était amusant, je peux dire. C'était très amusant d'enseigner dans une école en France. Mais très sympa. Et je pense que ce n'est pas très différent d'une école aux États-Unis. On a les tables, on a des activités à faire, on a des maîtresses et des maîtres qui enseignent des sujets. Oui, c'est très sympa.
Et pour quelle raison t'as voulu rentrer aux États-Unis?
Je pense que je voulais être avec ma famille. C'est difficile d'habiter loin de la famille. Moi, je suis le bébé aussi de ma famille. Donc, ma sœur aînée, elle avait quelques enfants et je voulais les voir. Je voulais être là pour elle et ah oui.
Non, je comprends, c'est normal. Il y a quelque chose que je remarque souvent et qui m'est arrivé à moi aussi, c'est que quand on vit à l'étranger et après on rentre chez nous, on découvre des nouvelles choses. C'est quelque chose qu'on appelle le reverse culture shock. Est-ce que c'est
Oui.
quelque chose que toi tu as ressenti? Est-ce que tu as remarqué des aspects culturels des États-Unis que tu connaissais pas forcément avant?
Oui, les grandes voitures
Ouais.
et le fait que c'est impossible de vivre sans une voiture
Ah
aux États-Unis. Ou bien peut-être dans les grandes villes, c'est possible, mais en général, aux États-Unis, il faut une voiture pour aller au marché, pour aller à l'école, pour aller au travail. C'est obligatoire et aussi on a des énormes voitures. Tout le
Oui,
monde.
oui, oui, oui. Ça, c'est ce qui marque tout le monde quand on vient aux États-Unis pour la première fois.
Ouais. Et aussi, moi j'adore marcher. Je marche chaque jour. J'ai un chien et on sort très souvent. C'est bon pour la santé physique et mentale. Mais j'observe de plus en plus que les Américaines évitent marcher. Donc, ici, il y a un épicerie juste 1 kilomètre, on va prendre la voiture à la place de marcher.
Ouais.
Et c'est négatif. Je pense que c'est quelque chose d'assez négatif que
Et il n'y a pas
j'observe.
beaucoup de trottoirs en plus. Enfin, c'est pas vraiment fait
Ouais,
pour marcher.
ça peut être un peu dangereux. Et autre chose, je pense que ça s'appelle une traverse piétonne. Est-ce que c'est... Ok.
Un passage piéton.
Passage piéton où on n'arrête pas, les voitures n'arrêtent jamais
Ah oui.
pour les piétons. Mais en France, c'est le contraire. Tu mets un pied dans la roue et les voitures s'arrêtent. Et grave. Et c'est vraiment... On s'en fout des gens à pied ou à vélo. C'est vraiment les voitures règnent aux
Ouais.
États-Unis.
Non, c'est
Donc,
vrai que c'est un aspect
si
qui
vous
nous marque
voulez...
tous, ouais.
Ouais, si vous voulez voyager aux États-Unis, faites bien attention.
Oui, il faut louer une voiture, c'est obligatoire.
Il faut louer une voiture et lorsqu'on est à pied, faut faire attention.
Oui. Et donc, on va parler du Kentucky, parce que c'est ici que tu
Ouais.
vis et c'est là que tu as grandi. Est-ce que tu peux me parler un petit peu du musée dans lequel tu travailles?
Oui, le musée s'appelle Fraser History Museum. Fraser, c'est le nom de famille de notre fondateur. Il s'appelait Owsley Brown Fraser. Et dans mon état, Brown et Fraser sont des deux familles qui sont très importantes. Ils étaient deux familles un peu comme les Medici de Kentucky, on peut dire. Donc, juste pour donner une idée, ils sont des familles riches, mais qui donnent dans les arts, la politique, culture. Donc, ce sont deux noms qu'on connaît bien dans le Kentucky ou dans ma ville, Louisville. Le musée s'appelle Fraser History Museum, mais le sujet du musée, c'est l'histoire de mon état, le Kentucky.
Ok. Et justement, je pense que en travaillant là-bas, tu as dû apprendre plein de choses sur l'histoire du Kentucky. Est-ce qu'il y a des aspects,
Oui.
toi, qui t'ont marqué ou qui t'ont surpris quand tu l'as appris?
Je pense que, bah, plutôt, je t'ai dit que, oh, les États-Unis, l'histoire, ce n'est pas aussi ancienne qu'en France. Et c'est plutôt l'histoire des Européens aux États-Unis qui ne date pas très longue. Parce que, bien sûr, il y avait des indigènes qui habitaient les États-Unis, cette partie du monde, et qui habitaient dans le Kentucky. Donc, l'État Kentucky prend son nom après un mot indigène. Et on a dans le Kentucky un réseau des grottes. Et je pense que c'est la grotte la plus vaste dans le monde, Mammoth Cave. Et l'histoire des habitants originaires, natifs de cette partie des États-Unis est très ancienne et aussi très riche. Donc on a ça. On a la colonisation de cette partie du monde par les Français et aussi par les Anglais. Et la ville où j'habite, Louisville, est nommée après Louis XVI.
Bien sûr.
oui, bien sûr. On a une statue du marquis de Lafayette, qui est un héros. Pour les Américains, il est un héros de la guerre révolutionnaire. Et il était ami avec un des fondateurs de Kentucky ou de Louisville, George Rogers Clark. Ouais.
J'aimerais revenir rapidement sur les tribus indigènes. Tu m'avais marqué que c'était les Cherokees, les Shawnees et les Iroquois, c'est ça?
Oui.
Est-ce qu'il reste encore des... Déjà, est-ce qu'il reste des membres de ces tribus qui habitent dans le Kentucky? Et est-ce qu'il reste des vestiges, des maisons ou des choses de cette époque-là dans le Kentucky?
On n'a pas des tribus. Bah, il y a des parties, il y a des réserves dans les États-Unis qui sont protégées pour certaines tribus. Et là, ils ont des lois, ils ont un gouvernement qui est hors celui des États-Unis. Ils ont un peu d'indépendance. Dans le Kentucky, il n'y a pas des tribus comme ça, mais on a toujours des Native Americans, des descendants de ces tribus et des membres de ces tribus. Et dans le musée où je travaille, on travaille avec des représentants de ces tribus pour faire certaines exhibitions et projets d'art, projets d'histoire.
Et concernant les liens avec la France, est-ce qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on peut trouver aujourd'hui dans le Kentucky, en dehors de statues, de choses comme ça, mais dans la culture qui sont liées à la France?
Est-ce qu'il y a des... Bah, ok, si on visite Louisville, on va trouver le fleur de lys partout.
Ah aussi.
Comme dans la Nouvelle-Orléans, le fleur de lys, c'est le symbole de Louisville. Et c'est vraiment partout, même tatoué sur la
Ah ouais.
peau de beaucoup de gens qui habitent ici. Et on a quelques équipes de foot et le fleur de lys, c'est le symbole de nos équipes de foot masculin et féminin. Et quoi d'autre? On a quelques quartiers qui sont nommés après la France et aussi quelques rues. On a un boulevard qui s'appelle Boulevard Napoléon. On a une partie de la ville qui s'appelle Paris Town. On dit Paris en anglais. Et quoi d'autre? À mon avis, on a beaucoup de choses. Il y a une nouvelle organisation qui vient de s'installer à Louisville, qui s'appelle Go Jobs, et c'est une organisation, une compagnie française qui, je pense, trouve des employés dans la domaine de la technologie. C'est un peu comme ils cherchent des employés et ils mettent ces personnes dans différentes positions,
Je vois.
dans différents postes. Et on a une alliance française. Alliance française, beaucoup de villes aux États-Unis vont avoir une alliance. Et c'est une organisation qui lie la ville avec la France. Louisville a une ville sœur qui est Marseille.
Ah ouais.
Donc Louisville et Marseille sont des villes sœurs. Mais on ne parle pas français dans ma ville ou bien dans le Kentucky.
Et la capitale s'appelle Francfort aussi, c'est ça?
Oui, ça s'appelle Frankfort.
Ok. Est-ce que tu as d'autres villes dans le Kentucky que tu connais ou que tu aimerais recommander?
Lexington. Lexington n'est pas loin de Frankfort et c'est juste 1 heure, peut-être 1 heure et demie de Louisville. Lexington a beaucoup d'histoire et c'est similaire à Louisville, mais peut-être il y a une culture qui est plus, on dit southern, un peu plus bah, du sud, similaire avec d'autres villes et d'autres États du sud des États-Unis. C'est une ville chaleureuse et il y a beaucoup de choses à faire là. Il y a une université, Université de Kentucky, qui est là et c'est une grande université. Ouais, Lexington, il faut aller voir.
Ok. Et dans la culture du Kentucky, bon, je vais sortir des clichés, mais on pense au bluegrass, on pense au poulet.
Ouais.
C'est quoi les grands symboles de cet état?
Ouf. T'as raison, bluegrass, c'est un genre de musique. Et la musique country aussi. Moi, j'associe ça avec le Kentucky, le Tennessee. Je pense qu'il ne faut pas oublier le bourbon, qui est l'alcool natif aux États-Unis. C'est le premier ou le seul alcool qui est unique aux États-Unis. Et ça, les origines de bourbon sont du Kentucky. Donc, c'est un alcool qui est fabriqué avec du maïs et il faut avoir 51% de maïs et il faut aussi mettre ce produit, cet alcool, dans un, comment des barrels, dans une
Dans un tonneau?
tonneau, oui, c'est ça, un tonneau qui est brûlé à l'intérieur, qui va donner bourbon une couleur plutôt dorée ou ambre après quelques années.
Et est-ce que c'est quelque chose que les gens boivent beaucoup, ou est-ce que c'est vraiment un côté industriel?
Je pense qu'on boit ça très souvent aux États-Unis, bah, surtout dans le Kentucky. Et quand on. Donc, le tourisme à Louisville est largement basé sur le bourbon. On a beaucoup de destinations touristiques qui sont associées avec l'industrie. Et donc, à Louisville, dans le centre-ville, on va voir Whiskey Row. Et c'est une série de boutiques, des bars où on fabrique et vend le bourbon. Ouais, donc pour le Kentucky, c'est vraiment une industrie énorme et très importante.
Et en termes de nourriture, parce qu'il y a toujours plein de clichés sur la nourriture américaine, en tout cas du point de vue des Français, comment tu définirais la cuisine du Kentucky, ou en tout cas les choses que tu as l'habitude de manger?
Ah, je pense qu'il y a beaucoup de différents styles de nourriture, mais on adore fried chicken, le poulet. On adore ça. On adore les haricots et les haricots verts. On adore les pommes de terre. Ouais, c'est un peu, on dit comfort food, southern food. C'est une nourriture qui fait penser à l'enfance, la jeunesse. Et quoi d'autre? Il y a des repas typiques ou comme Derby Pie, c'est une tarte avec des pecans et du chocolat
OK.
qui vient de ma ville. C'est une spécialité. Derby fait référence au Kentucky Derby. C'est une course à chevaux qui est connue dans le monde. C'est très célèbre, ce course à chevaux. Et cette année, on fête l'anniversaire, le 150e anniversaire de Kentucky Derby.
OK. Et si tu voulais me faire visiter Louisville, où est-ce que tu m'emmènerais?
Whiskey Row, bien sûr, pour voir tous les l'ambiance. Il y a des restaurants, il y a des bars, il y a de la musique, il y a une ambiance vraiment. Il faut aller voir ça et d'autres à Louisville. Ok, moi j'adore les parcs. J'ai dit à Paris, j'adorais le parc, même à la Nouvelle-Orléans. Donc je pense que à Louisville, on a quelques parcs qui sont incroyables. On a Cherokee Park. J'ai grandi à Cherokee Park. Il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est un parc qui était fait par Olmsted. Olmsted était un architecte très célèbre et je pense qu'il a fait quelques parcs à New York aussi, comme Central Park.
OK, je
Peut-être
savais pas ça.
je me trompe, donc il a fait Cherokee Park. Et il y a d'autres choses à voir à Louisville, comme Floyd's Fork Park, un autre parc qui est très beau. Et on oublie qu'on est dans une ville. On est dans un parc, il y a du kayak, on peut faire la pêche, on fait la randonnée. Et on oublie qu'on est vraiment dans une grande ville. Quoi d'autre? Il faut aller voir Actors Theater, un théâtre local ou quoi d'autre? Oh, il y a plein de choses à faire. Pendant l'été, il faut aller en amphithéâtre, Iroquois Amphitheater. Il y a des pièces, il y a des concerts. Et aussi pendant l'été, Louisville est située dans le Ohio River. Donc on a un grand parc sur la rive. Et le premier mercredi de chaque mois, il y a un concert public. Et on a beaucoup de célébrités locaux qui donnent des concerts et tout le monde vont être là, vont aller.
OK. Trop bien. Est-ce que t'as beaucoup voyagé autour des États-Unis?
Un peu, un peu. Je suis allée à la côte ouest et à la côte est.
OK.
Et aussi Nouvelle-Orléans, je suis allée en Floride quelques fois, Chicago, j'aime beaucoup Chicago.
C'est quoi tes lieux préférés, tu penses, aux États-Unis?
J'adore Louisville. Il y a, c'est quand on habite dans une ville, c'est différent de habiter. Mais même si j'étais un touriste, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans cette ville. Mais après ça, je pense la Nouvelle-Orléans. Et c'est juste parce que la culture est vraiment riche et tout le monde, on dit à la Nouvelle-Orléans, on dit laissez les bons temps rouler. Et c'est vraiment l'esprit de cette ville.
Tu penses retourner en France prochainement?
Oh oui, j'ai hâte.
Ah ouais,
Donc,
qu'est-ce qui te manque de l'Europe?
après. tout.
Tout.
Oui. Ouais, tout. J'ai envie d'y retourner et je veux visiter une nouvelle partie de la France. Je suis jamais allée à Bordeaux et ou Lille. Donc même j'ai habité déjà la France, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Et donc pour moi, j'ai envie de retourner en France et aussi dans l'Europe en général.
Est-ce qu'il y a de la nourriture, par exemple, qui te manque?
Oui, le pain.
Ah ouais?
Ouais. Tu trouves le pain français aux États-Unis?
À New York, il y a quelques boulangeries qui sont pas trop mal, mais je
Ok.
mange très peu de pain depuis que j'habite ici parce que c'est tellement cher que c'est pas possible.
Oui, c'est ça, parce qu'en France, ce n'est pas cher. Et je pense que aux États-Unis, on utilise beaucoup de ingrédients pour qui sont pas naturels dans le pain pour prolonger la vie du pain. Et c'est différent, ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas le vrai pain.
Non, c'est pas pareil. Les
Non.
croissants aussi, c'est difficile à trouver.
Oh là là. Ok, mais tout le monde aux États-Unis, bah, c'est facile d'aller trouver un croissant ou pain au chocolat. Ils sont dans tous les cafés aux États-Unis. Mais ce n'est pas un vrai croissant
Non,
ou pain au chocolat.
c'est pas les mêmes.
Ouais. Oh, c'est terrible.
Tu sais
C'est
quand tu vas y
triste.
retourner prochainement?
Oh, j'espère bientôt. Peut-être cette année, j'ai un ami qui habite à Marseille cette année. Et j'ai dit que, bon, ok, peut-être je vais aller te rendre visite. Donc, j'espère cette année.
Bah, je te le souhaite, en tout cas. Pour terminer, en général, j'interviewe des Français qui habitent aux États-Unis. Toi, tu es américaine, donc tu as forcément une vision différente de ton propre pays. Quel conseil tu donnerais à des Français qui veulent visiter ton pays?
Comme j'ai dit, quand on est à pied, il faut faire très attention. Et je conseille de essayer de voir au-delà des stéréotypes parce que je pense que il y a plein des Américains qui ne conforment pas parfaitement aux stéréotypes qu'on a des Américains. Et en général, on est vraiment chaleureux. C'est la culture d'être sympathique et accueillante. Donc, je conseille d'aller trouver ça et de rester ouvert aux gens et aux expériences.
C'est quoi les stéréotypes sur les Américains avec lesquels t'es pas du tout d'accord?
Ah, je pense qu'il y a certes, bah, les stéréotypes existent pour une raison, et c'est parce que il y a un peu de vérité là. Mais je pense que c'est impossible de réduire tout le monde à un stéréotype. Et les États-Unis, ce que j'observe chaque jour, qu'on est vraiment divisé, tout le monde. Et en pleine panique, on est divisé. Et même si on a des différences et on a du mal à résoudre des problèmes, je pense que on est. Ah, comment dirais-je? On est. C'est possible de trouver des similarités dans tout le monde. Et c'est ça que je dis même à un Français. Je pense que un Français et moi, ou un Espagnol et moi, on a autant de similarités qu'on a des différences. Et moi, je préfère peut-être me concentrer sur les choses qu'on partage en séminaire et ne pas trop juger ou voir les stéréotypes négatifs.
Merci beaucoup, c'est une très très bonne conclusion.
Merci à toi.
Est-ce que pour terminer, tu pourrais me conseiller une musique qui résumerait le Kentucky selon toi? D'un point de vue personnel, c'est pas forcément la musique la plus cliché, mais en tout cas une musique que tu aimes bien et qui tu penses résume bien ton état.
Ok, je vais conseiller un artiste qui s'appelle Jack Harlow. Il est jeune, il est célèbre, il est hot en ce moment.
Ouais.
Et il vient de Kentucky. C'est un rappeur et je pense que il est un bon exemple d'un Kentuckian aujourd'hui.
Okay.
Jack Harlow.
Trop bien. Bah, merci beaucoup. C'était super.
Merci.
Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, pensez à le noter et à laisser un commentaire. Ça m'aidera beaucoup. Suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour continuer ce voyage aux États-Unis. Les liens sont comme toujours dans la description. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode aux États-Unis. À très bientôt.